Bonjour, je suis Charlotte et à travers ce podcast, je vous propose de découvrir la saison 2 de notre aventure juillet. En route vers notre été invincible, nous rencontrons sur notre chemin des personnes exceptionnelles. Parce qu'elles osent, parce qu'elles sont passionnées, parce qu'elles assument ce qu'elles sont et parce qu'elles nous inspirent, nous avons envie de vous les présenter. Alors venez avec nous et savourons ensemble un instant juillet. Ce 18e épisode est aussi et surtout le premier de la saison 2 de l'Instant Juillet et il nous a semblé évident de le débuter avec Victor Vincent. Nous pourrions vous donner plein de raisons factuelles pour justifier ce choix, mais la vérité c'est que nous sommes liés à Victor. Victor Vincent est mentaliste, c'est même le meilleur, et s'il est difficile de décrire cette activité souvent confondue avec la magie, Victor la décrit comme un ensemble de choses rationnelles pour créer des choses qui semblent irrationnelles. Pour lui, nous sommes tous connectés et nos choix sont des répercussions sur le destin de ceux qui nous entourent. Et en cela, nous nous sommes reconnus. Comme nous, il aime faire passer les autres par toutes les émotions, de la surprise au mystère. Comme nous, il pense que rien n'est hasard et que nous sommes liés aux personnes que l'on rencontre sur notre chemin. Comme nous, il ambitionne que les gens sortent transformés par le spectacle auquel ils ont assisté et que cet instant soit gravé, essentiel. Alors venez avec nous à la rencontre bouleversante de Victor, le temps d'un instant juillet. Donc Victor, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté d'être notre invité sur l'Instant Juillet. Alors c'est assez impressionnant de vous avoir face à moi et je l'ai dit juste avant qu'on commence l'enregistrement. D'abord parce que je suis très admirative de votre talent,
évidemment, merci,
c'est gentil. Et de la manière surtout dont vous l'utilisez. Et puis parce que vous avez un regard vraiment bleu et clair et franc et intense, tout ça.
Je vais pas me mettre, arrêtez.
Non, c'est bouleversant d'être là. Et pour être sincère, j'avais envie de commencer notre échange par une anecdote que j'ai lue et qui m'a émue, que vous avez racontée déjà. Il s'agit de la prédiction sous enveloppe de votre mentor, donc Daniel Miraskil.
Oui.
Est-ce que vous pouvez du coup nous la raconter?
Oui, c'est une très longue histoire. J'ai quelqu'un qui m'a appris ce métier, il s'appelait Daniel Miraskil. Et lorsque j'avais 16 ans, il me regarde comme ça, il me dit « Oh, j'ai une sorte d'intuition sur ce que tu feras plus tard ». Il avait régulièrement des sortes de petits flashs comme ça, il s'amusait à prédire l'avenir un peu à droite à gauche sans vraiment y croire. Mais tout le monde était toujours curieux de ce qu'il avait imaginé pour telle ou telle personne. Et là, il me dit « Oh, je vois ce que tu vas faire ». Alors, évidemment, je le questionne pour savoir, et puis il ne me dit rien. Il me dit « Écoute, on en parlera tout à l'heure ». Et puis quelques heures après, il me dit « Écoute, non, je ne te dis rien. Je te le dirai quand ce sera le moment ». Et puis le temps passe, et puis après il me dit « Tiens, je l'ai écrit. J'ai écrit ça sur un papier, puis j'ai enfermé ça dans une enveloppe. Et puis, quand le moment sera venu, nous ouvrirons l'enveloppe ensemble ». Et puis, cette histoire-là, elle va durer 22 ans. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai voulu savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Quand un mystère est trop long, après, on s'en désintéresse, donc on ne passe plus la question. Puis après, il avait l'art et la manière de remettre cette enveloppe dans la discussion. Et puis, j'étais curieux de savoir ce qu'il y avait dedans. Et puis après, il me dit « Ah, ça y est, l'enveloppe, elle est là, elle est dans ce meuble ». Après, il me dit que « Ah, le meuble, il est dans le grenier de chez mes parents parce que quand son père est décédé, il a déménagé et puis il a stocké des choses là-bas ». Et puis, en fait, il a toujours parlé de cette enveloppe. Et puis, le 23 novembre 2014, c'est le bouclage de mon premier livre. Et il m'appelle, parce que je lui ai demandé de décrire la préface, et il reparle de cette enveloppe. Et là, je lui dis « Écoute, Daniel, il faut quand même que tu me dises ce qu'il y a dedans, c'est pas possible. » Il dit « Oui, oui, on l'ouvrira ensemble. » Et le lendemain matin, son fils va m'appeler pour me dire qu'il était décédé. Il est mort dans la nuit à l'âge de 57 ans. C'était une très grosse surprise pour tout le monde. Pas d'une longue maladie ou quoi que ce soit, c'était extrêmement soudain. Et donc, bon, je n'ai pas cette enveloppe. Et puis à sa crémation, on me demande de dire quelques mots. Alors, je n'ai absolument rien prévu parce que sur l'émotion, je ne peux pas me tenir sur un texte ou quoi que ce soit. Mais je prends la parole, puis je commence à évoquer un petit peu tout ce qu'il faisait. Et puis, je parle des prédictions qu'il faisait, des spectacles incroyables. Donc là, on passe dans toutes les émotions, on pleure tous, on rit. Et puis, à un moment, j'explique cette histoire d'enveloppe. Et au moment où je l'explique, je me rends compte que cette enveloppe, en fait, elle n'a jamais existé. C'est que c'est exactement sa définition du mystère et c'est ce qui m'avait inculqué tout le temps. C'est voilà, tu, 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 si tu dis aux gens ne pensez pas à ça, ils vont forcément penser à ça. Donc là, moi, je t'ai mis quelque chose dans une enveloppe. Enfin, j'imagine qu'il aurait pu me dire ça pour que tu te poses la question. En fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Et ce mystère-là, il a duré très longtemps. Et puis, il a vraiment utilisé tous ses principes, c'est-à-dire que d'abord, c'est une idée. Après, cette idée, il l'écrit. Après, il met ça dans une enveloppe. Après, l'enveloppe, il le met dans un meuble. Le meuble, il part dans un grenier. Et lorsqu'il a écrit la préface, il me reparle de cette enveloppe et il me dit, comme tu le sais, cher Victor, au siècle passé, dans le grenier de la demeure familiale, se trouve dans une enveloppe noire, enfermée dans une boîte en argent, le secret de ton devenir. Et donc, en fait, il avait mis les boîtes dans la boîte, dans la boîte, dans la boîte. C'est exactement le principe de l'illusion. Et je me suis fait illusionner pendant 22 ans. Et je me suis dit, pourquoi il a fait ça ? Et là, je me rends compte sur le moment qu'il a fait ça probablement pour que je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe et qu'est-ce que j'ai envie d'y trouver ? Et donc, c'est intéressant quand même de temps en temps de se prendre un petit peu de temps pour savoir ce qu'on voudrait de sa vie.
Devenir, oui.
Et ce qu'on voudrait devenir. Et évidemment, ce que j'ai souhaité trouver dans l'enveloppe a changé au fur et à mesure des années.
Oui, c'est sûr.
Eh oui.
Et du coup, peut-être que cette prédiction, justement, elle aurait été juste à un moment. Dans tous les cas, il aurait eu raison peut-être à un moment s'il avait fait quelque chose.
Oui, peut-être qu'il a attendu le moment aussi.
Il s'est dit, voilà, je vais...
Voilà. Et puis après, pour l'histoire, c'est que j'ai attendu 5 ans pour aller dans... dans ce fameux grenier, et j'y suis allé avec son fils, mais je n'ai rien trouvé. Voilà, parce que le meuble en question n'était plus là non plus. Donc, est-ce que cette enveloppe a un jour existé ? Je ne le saurai jamais, et vous savez quoi ? Eh bien, je ne veux pas le savoir.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'effectivement, vous vous êtes posé la question, ok, j'ai peut-être un grand destin. En tout cas, il y a quelqu'un qui me prédit quelque chose.
Pas un grand destin, pas du tout, mais de dire voilà.
Enfin, quelque chose qui m'attend dans mon devenir, voilà. Qu'on m'a prédit.
On a tous quelque chose qui nous attend.
Et est-ce que je vais prendre le bon chemin pour arriver à ce que cette personne a prédit ? Et
c'est
du
ça.
Coup, et entre-temps, vous avez pris différents chemins ?
Ah oui, j'ai pris différents chemins. À l'époque, quand il me fait ça, moi, je voulais être réalisateur. Je le veux toujours, d'ailleurs. Mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose qui m'obsédait. Enfin, cela dit, ça m'obsède encore, mais disons que je suis un peu moins pressé maintenant.
Vous avez fait des détours.
J'ai fait quelques détours, oui. Mais donc, c'est ça que je voulais trouver. Et puis après, le temps a fait son œuvre, et puis j'ai eu d'autres envies.
En tout cas, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, parce que justement, quand on se met à vouloir créer des événements et rassembler les gens, on a envie de ça, nous, justement, de se dire, de créer des liens, en tout cas de faire que quand on fait un événement et que les gens se rencontrent et partagent une émotion, quel que soit l'événement, ça peut changer.
Bien
derrière
sûr.
La vie, ça peut bouleverser quelque chose, ça peut faire un déclic, une évidence, un sens qui change
bien sûr.
Le chemin prévu. Et
bien sûr, il y a des événements comme ça où on va rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, où il va se passer quelque chose, et puis ça va ancrer en nous un sentiment... et puis il y a des rencontres qui changent des vies complètement. Enfin, d'ailleurs, il n'y a que ça.
On le disait dans un podcast précédent, l'invitée qu'on a eue, elle nous disait que chaque projet est rencontre. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut aussi changer de chemin, ou en tout cas changer de projet, changer de destinée en fonction des gens qu'on rencontre. Et donc c'était ça, en tout cas le lien. Alors je ne sais pas si c'est ce que vous traitez du coup dans les liens invisibles dont on entend parler un petit peu, mais en tout cas, moi c'est ça qui m'avait un petit peu parlé, de dire tiens c'est intéressant ce lien invisible.
Oui, dans les liens invisibles, c'était un spectacle, c'était mon précédent spectacle, et justement qui avait pour origine cette histoire de Daniel, etc. Et finalement, c'était tellement personnel que j'ai décidé de ne pas mettre cette histoire-là dans le spectacle. Et puis finalement, j'ai mis plein d'autres histoires très personnelles aussi avec lui, parce qu'il m'a fait des cadeaux absolument incroyables, qui est d'ailleurs en rapport ici, là nous sommes à Blois présentement, et qui a un rapport avec ici, puisqu'en fait il m'a offert l'histoire de Robert Houdin, qui est quelqu'un qui est horloger, qui veut acheter un livre sur l'horlogerie, et aux éditions Pankook de 1789, de Ferdinand Berthoud précisément, et puis lorsqu'il l'achète, eh bien il se trompe. Le libraire se trompe et lui donne un livre qui a exactement le même format, qui est le dictionnaire encyclopédique de la précipitation. Ce qui fait que ça va changer sa vie. Et moi, Daniel m'a offert, à titre posthume, puisque c'est son fils qui me l'a remis, le livre, justement, de Ferdinand Berthoud, qu'aurait dû recevoir Robert Houdin.
Alors, c'est
pas,
drôle.
Peut-être pas l'exemplaire précis,
bien sûr, ouais.
Mais en tout cas, le livre de l'époque là qui est là. Et donc, en fait, voilà, il y a des petites traces comme ça. Et puis, ce qui est amusant, c'est que sur ce livre, à la première page, tous ceux qui l'ont possédé ont signé. Et donc, en fait, on remonte. Et c'est amusant de voir les liens qui relient les gens à travers les époques, à travers tout ça, par des objets, par des choses qu'on laisse. Voilà.
Ouais,
donc, effectivement, je parle de ça. Je parlais de ça dans mon ancien spectacle. Et là, j'ai réalisé un moyen-métrage qui s'appelle « Les liens invisibles », que j'ai même terminé hier, toute la post-production, tout est terminé.
Wow.
Puis hier, et ça reparle de tout ça. Enfin, là, on ne parle pas de Robert Houdin, mais j'aborde tous les récits que j'avais abordés dans le spectacle Les Liens Invisibles. Et ça parle de ça, justement.
Du coup, c'est passionnant parce que souvent, quand on imagine la magie, enfin, en tout cas, moi, dans la tête, quand on imagine la magie, on imagine les tours de magie, les tours de cartes, les disparitions, etc. Mais finalement, la magie, c'est aussi ce qui se passe quand on se rencontre et quand on a un lien qui arrive. Et du coup, c'est intéressant parce que ça me paraît être le lien avec le mentalisme, c'est-à-dire comment on fait de la magie entre les gens, un art, un spectacle.
Oui, oui, oui. Après, comme vous dites, les effets, les apparitions, etc. C'est pas moi, je lis plutôt dans les pensées ou j'essaie de prévoir ce que les gens vont faire. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que c'est une sorte de magie pour les adultes parce que ça touche plutôt aux pensées, oui, à l'irrationnel. Donc voilà. Mais après, effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des moments de rupture où les gens se disent, tiens, il a pu deviner ça. Et en fait, on a tous envie d'être compris, on a tous envie d'avoir, oui, quelqu'un qui lit entre guillemets dans nos pensées. Moi, je partage ma vie avec quelqu'un qui lit dans mes pensées, il me comprend, je le comprends. Voilà, c'est un privilège, ça. Et donc, j'aime bien moi aussi rencontrer des gens qui me comprennent et qui me... comprendre, prendre.
Et puis ça permet peut-être aussi de se poser des questions sur soi, c'est-à-dire que finalement, il a compris ça de moi, il a vu ça en moi, c'est vrai que peut-être que je n'exprime pas assez, peut-être que je ne le montre pas, mais il a su le voir, donc je vais développer peut-être ce talent ou je vais développer cet aspect-là.
Alors après, moi, je ne suis pas trop dans cette démarche de développement personnel ou ce genre de choses, parce que d'abord, je ne pense pas être doué pour ça, je pense ne rien avoir à apprendre à qui que ce soit. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de créer un lien avec la personne avec qui je fais l'expérience. Et je sais qu'elle s'en souviendra longtemps, parce que tout le monde ne participe pas à ce genre d'expérience. En tout cas, c'est assez rare. C'est comme quand vous allez voir un spectacle et que vous êtes choisi et vous vous retrouvez sur scène. Bien vous sûr, allez vous, ouais, en souvenir peut-être toute votre vie. Et donc, il faut que ces souvenirs-là soient positifs. Donc, que ça laisse juste une trace de partage et un peu d'émerveillement pendant de nombreuses années. Il y a des petites choses comme ça qui restent.
Alors, on a parlé livres et c'est vrai que nous, on a souvent aussi dans notre podcast parlé livres. Vous avez parlé de livres qui ont pu être importants. Oui. Est-ce qu'il y a un livre en particulier qui vous a marqué au-delà de ce cadeau
Alors, vous voulez parler d'un livre ou d'un auteur
qui serait... Oui, un auteur, oui, tout à fait. Quelque chose qui vous aurait inspiré
Peut-être quelque chose qui est un peu magique, c'est que... Alors, moi, déjà, j'ai commencé à lire très tard, vraiment très tard. J'ai commencé à lire... J'ai dû lire mon premier livre complètement avec intérêt, en l'ayant choisi moi-même, vers l'âge de 19 ans. Donc, c'était quand même assez, assez tardif. Mais après, je me suis rattrapé. Mais moi, j'ai bien aimé tous les romans fantastiques de fin 19e. De Dracula, Frankenstein... Docteur Jekyll, Mr. Hyde, etc. Toutes ces choses-là, même le Horla, c'est un premier
un peu
c'est très court.
Du coup, c'était sur la psychologie.
Oui, oui, bien sûr, il y a ça, mais surtout, moi, c'est pas ça qui m'intéressait vraiment. Hein, c'était surtout les ambiances qui étaient, ouais, qui étaient là, quoi. Et je crois que même le premier, c'était le Horla de Maupassant. C'est très court, donc c'est très abordable, ça va vite. Et puis d'un seul coup, je me suis dit, tiens, je suis pris là-dedans comme dans un film. En fait, ça peut être intéressant, toutes ces histoires-là. Tout ça est intéressant. Et puis, ça m'a ouvert les yeux un peu sur une autre forme de magie, de mystère. Et puis, sur les ambiances aussi très fortes. Et ça, c'est quelque chose que j'adore.
Et du coup, il y a aussi... la musique fait aussi partie de ça.
Oui.
Ouais.
Ah oui, oui, la musique... je travaille avec quelqu'un qui est fabuleux, qui s'appelle Romain Trouillet, qui est un compositeur qui fait beaucoup de musique de film. Là, qui a fait la musique du film De Gaulle, par exemple, là, récemment. Et on se connaît par cœur, on a des goûts communs sur plein de références, et puis il compose les musiques des spectacles de manière vraiment... c'est très pointilleux, on fait ça ensemble.
Parce que pour une ambiance, c'est essentiel, la musique.
Ah oui, pour une ambiance, c'est vraiment essentiel. Il a réalisé, il a écrit aussi la musique du moyen-métrage.
D'accord. Mais alors, il sort quand, ce moyen-métrage ?
Oh, bah, il va partir en festival. Donc,
ah, ok, d'accord.
Voilà, le long-métrage, bon, vous pourrez retrouver des choses comme ça au cinéma, mais quand c'est un moyen-métrage, ouais, c'est un peu plus compliqué, parce que d'abord, il faut qu'il ait une vie en festival. Il ne faut pas le diffuser ailleurs, parce que sinon, on ne peut pas aller en festival. Donc voilà, puis après, il se retrouvera en ligne, je pense, et puis, puis voilà. Mais c'est un grand projet pour moi, qui est important, et puis j'en ai d'autres aussi, mais là, pour du long métrage, là, j'espère que vous le verrez au cinéma, mais c'est pas encore commun.
Mais du coup, c'était votre rêve de départ.
Oui, c'était mon rêve de départ, mais là, je suis très heureux parce que j'ai un roman qui va sortir en janvier chez Fleuve Noir, qui s'appelle Apparition, et je vais en faire un film. Donc,
Alors, c'est quoi, c'est un thriller, c'est une enquête?
C'est un thriller psychologique, oui. Absolument. Dans le monde secret de l'illusion, donc on est dans ce que je connais.
Sympa. Et en général, pour conclure ce podcast, on a une dernière question qui est comment voyez-vous votre demain ? Mais alors, du coup, c'est assez particulier de poser ça à quelqu'un qui peut faire des prédictions.
Mais écoutez, on peut regarder le passé, regarder le présent, tirer une droite et puis voir ce qui se passera après. Ce que je me donne vraiment, je veux réaliser un long métrage. Et je suis en voie et je suis en train de... Donc mon objectif, c'est ça. Est-ce que ça se réalisera ou pas? Je ne sais pas. Mais ce que je veux, c'est de ne pas avoir de regrets et faire tout pour que ça arrive. Et puis, si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Mais ça arrivera.
Mais oui, du coup.
Mais oui.
C'est peut-être ça qu'il y avait dans l'enveloppe.
Raconter des histoires, c'est ça que je veux faire. Sur scène, et puis
c'est
ailleurs,
le fil, en tout cas.
Livres, ou dans
finalement,
le...
oui, conducteur
c'est un
de
fil.
Tout.
Pour moi, c'est la même chose. Quand j'écris le livre, j'ai envie de... Quand je lis un roman, j'ai envie d'être capté tout de suite et puis que l'auteur joue avec mon esprit en me faisant croire certaines choses, en me faisant douter, en me faisant réfléchir. Et donc j'essaie de faire la même chose. Et quand je suis sur scène, je fais pareil. Et puis quand je fais le moyen métrage, je dis la même chose aussi. C'est qu'il faut jouer avec l'œil, avec l'esprit. Tout. Pour moi, on raconte des histoires, c'est la même chose en fait. Puis surtout que le cinéma, c'est l'art de l'illusion aussi.
Oui, c'est sûr.
Donc j'adore l'idée de tourner une séquence, alors ça c'est un petit plaisir personnel, mais quand on tourne une séquence dans une voiture qui est à l'arrêt alors qu'on a l'impression qu'elle roule sur l'autoroute à toute vitesse, ça me plaît parce qu'on crée une illusion et c'est très amusant à faire.
Après c'est drôle parce que c'est une illusion, alors je suis peut-être totalement hors sujet, mais c'est une illusion qui me semble hyper travaillée, hyper calibrée. Voilà, le cinéma, on sait comment ça va se dérouler, on sait les moyens techniques, et là finalement quand vous êtes sur scène et vous allez faire monter des gens sur scène que vous connaissez pas, etc.,
oui,
avant, c'est une... enfin, vous allez faire des illusions. Mais il y a une part d'impro énorme.
Ah oui, bien sûr, il y a une part d'improvisation, parce que les gens qui montent sur scène sont toujours différents d'un spectacle à l'autre, donc forcément, je dois me caler sur eux aussi. Mais après, au cinéma, ce qui est amusant, c'est d'utiliser, quand vous utilisez des effets spéciaux et qu'on regarde et qu'on accepte tout ça comme étant quelque chose de réel, c'est là qu'on a gagné.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que quand on n'a aucun doute sur ce qu'on voit, même les choses qui sont forcément des effets spéciaux, mais qu'on les accepte comme une vérité.
On est dedans et on fait comme un nouveau monde. Et
voilà, c'est ça. Ouais. Là, l'auteur a gagné quand on arrive à faire ça.
On aimerait faire ça. Ça serait la grande réussite pour nous, faire un événement juillet avec des effets tellement incroyables que les gens rentrent dans un nouveau monde totalement.
Ah oui, quelque chose d'immersif comme ça. Il y a plein de belles choses à faire là-dessus, oui. Tout est encore à faire.
Exactement. Merci Victor.
Merci à vous.
On se retrouve très vite pour un nouvel Instant Juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Réalisez vos envies et saisissez vos rêves. Vivez l'instant et osez la liberté. Soyez juillet.